Les musiciens en leur temps, une émission proposée par Daniel Cabanis.
Nous allons poursuivre avec ce qui symbolise pour la majorité des gens le ballet, c'est-à-dire le ballet romantique. Un petit rappel, le ballet pantomime se développe dans toute l'Europe, dans tous les pays. Beethoven lui-même créa une musique de ballet dans ce sens sur son poème musical « Les créatures de Prométhée » dont nous écoutons l'ouverture. Même en Russie, on en connaît quelques illustrations. La fin des guerres napoléoniennes, la paix retrouvée, sont favorables à un renouvellement artistique. Le romantisme littéraire et musical triomphe et tend à s'imposer. La poésie et la littérature ne sont d'ailleurs pas en reste, donc la danse ne pouvait manquer elle aussi de se transformer. Et nous avions vu, effectivement, que le ballet pantomime annonçait déjà cette mutation. Tous les artistes rêvent d'un art révolutionnaire, débarrassé de ce qu'on qualifie bien sûr de démon de l'Ancien Régime, d'un nouveau souffle lyrique, exotique, féerique, sensuel. Et le paradoxe est que ce développement se fera alors que la politique bascule dans le conservatisme de la Sainte Alliance. Les figures se sont allégées comme les costumes. Les danseuses se mettent à danser sur les pointes, tandis que les danseurs leur servent essentiellement de faire valoir, notamment en assurant des portées spectaculaires. Ce n'est en effet qu'avec Serge Liffard au XXe qu'ils auront enfin des rôles à leur mesure, qu'illustreront de très très grands danseurs, ainsi Baryshnikov ou Noureyev ou encore Patrice Dupont, sans oublier George Donne, l'inspirateur de Béjart, immortalisé dans le boléro de Ravel au cœur du film de Lelouch « Les uns et les autres ». Revenons aux ballerines et aux thèmes de leur danse. Le ballet romantique abandonne progressivement les mythes de la Grèce antique pour se tourner vers la mythologie nordique peuplée d'elfes, d'ondines, de trolls. C'est le règne de la danseuse pâle, éthérée, incarnant souvent la nostalgie et le spleen, habillée de mousseline vaporeuse, couronnée de fleurs des champs. Cette fameuse robe vaporeuse est mise au point par le couturier français Eugène Lamy. Et c'est encore l'uniforme du ballet classique aujourd'hui, le rêve de milliers de petites filles qui se voient sur scène avant de découvrir que la voie est difficile et que pour beaucoup d'appelés, il y a bien peu d'élus. Le premier grand ballet romantique est la Sylphide, créée à l'Opéra de Paris le 12 mars 1832 par Filippo Taglioni pour sa fille Maria, sur un livret d'Adolphe Nourry, inspiré d'un conte de Charles Nodier, Trilby, et une musique de Jean Schneidhofer. Marie Taglioni interprète le premier rôle, entourée de Joseph Mazillier et de Lise Noblet. C'est l'apothéose du ballet blanc qui triomphera complètement pendant 30 ans. Les chorégraphes déploient des prouesses d'imagination, mais le problème de fond reste la musique, car ils se contentent la plupart du temps de musiciens médiocres et beaucoup de ballets de l'époque ont sombré dans l'oubli en raison de la pauvreté des partitions. Quelques mots sur la Sylphide. La Sylphide raconte l'histoire d'un jeune Écossais, James, qui est aimé par une sylphide que lui seul peut voir. Mais James est fiancé et le jour de son mariage, la sylphide s'empare de l'alliance destinée à sa fiancée et s'enfuit dans les bois. James la poursuit, oublie sa fiancée dans la forêt. Nous écoutons la mélodie de la danse de la sylphide. James rencontre alors une vieille sorcière qu'il avait jadis chassée et qui est bien décidée à se venger. Elle lui donne un voile qui devrait lui permettre de capturer la sylphide. Mais ce voile est empoisonné et fait perdre ses ailes et sa vie à la sylphide. James, dans son immense chagrin, aperçoit au loin son ancienne fiancée qui se marie avec son rival, elle s'est bien consolée, et le cortège funéraire de la sylphide. Il meurt, le mal a triomphé. Mais les sommets du ballet romantique sont atteints par Tchaïkovski, qui a composé des musiques immortelles, La Belle au bois dormant, Casse-noisette ou Le lac des cygnes. Musique sublime dont se sont emparés les grands chorégraphes, non seulement russes, dans des visions plus ou moins classiques, mais qui attirent toujours de nombreux spectateurs. En 1875, le Grand Théâtre de Moscou commande à Tchaïkovski Le lac des cygnes. Il a 35 ans, c'est son premier ballet. Le genre est mal considéré à l'époque, parce que comme nous l'avons vu, la musique est secondaire. Et certains de ses amis le lui déconseillent, craignant qu'il ne se déconsidère. Il aurait répondu « Il n'y a pas de genre inférieur en musique. Il y a simplement des bons ou des mauvais musiciens. » Ce n'était pas l'expression de la plus grande modestie. L'histoire du lac des cygnes mêle les thèmes de l'amour, la mort et le destin chers à Tchaïkovski. Nous écoutons la célèbre valse des fleurs. Le prince Siegfried doit se marier. Un bal est organisé durant lequel il devra choisir sa future épouse. Mais le prince est tombé amoureux d'Odette, une jeune fille condamnée par le sorcier Rothbard à vivre le jour sous la forme d'un cygne blanc et ne reprendre des traits humains que la nuit. Le maléfice prendra fin si Siegfried épouse Odette. Lors du bal, en fait, on lui présente une jeune fille vêtue de noir. La fille de Rothbard. Abusé par la ressemblance avec Odette, Siegfried la choisit, le cygne blanc apparaît alors et le prince réalise sa méprise. Trop tard, Sur scène, les rôles du cygne blanc et du cygne noir sont généralement dansés par la même ballerine, ce qui accentue le dédoublement psychologique. Le cygne blanc représente la femme idéale, pure et intouchable, tandis que le cygne noir symbolise évidemment l'hypocrisie, l'égoïsme et la manipulation. Sommet de la danse classique, ce double rôle est un passage obligé dans la carrière de toute danseuse étoile. Tchaïkovski renouvelle l'expérience avec La Belle au bois dormant. Ce n'est pas exactement la même que celle du conte, version Perrault des frères Grimm, s'agissant des détails, notamment parce qu'on y insère d'autres personnages, mais peu importe. Il se termine en apothéose de l'amour, de la grâce et de la beauté. Nous l'écoutons. Tchaïkovski composa aussi Casse-Noisette, le dernier et le plus court de ses trois ballets, entre février 1891 et avril 1892. Le livret reprend le thème d'un conte fantastique d'Ernest Théodore Amadeus Hoffmann dans la version française d'Alexandre Dumas-Père. L'histoire est celle d'une petite fille qui, après avoir reçu comme cadeau un joli casse-noisette à tête humaine, fait un rêve. Au cours de celui-ci, et après une lutte contre le roi des souris, le casse-noisette se transforme en prince, avec lequel la petite fille fait un voyage au pays des friandises. Cette mince trame engendre une série de danses aussi brèves que charmantes, d'une infinité de personnages. Nous en écoutons la valse. Peut-être Casse-Noisette n'a-t-il pas le souffle et l'élan lyrique des deux ballets précédents. Il est certainement inférieur à La Belle au bois dormant, disait lui-même Tchaïkovski, mais il les égale certainement pour ce qui concerne l'imagination mélodique ainsi que la richesse et la maîtrise de l'orchestration, toujours aussi peu modeste.